Olivier Fontaine, bonjour.
Bonjour Guylaine.
Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on n'est pas en studio, hein, on est dans un cadre public, mais voilà, c'est les conditions de la vie.
Du direct, non, c'est pas du direct, mais c'est les conditions...
Du faux direct.
Oui, du faux direct voilà. De la vie, oui, tout à
donc,
fait.
Donc on aura peut-être des petits bruits de tasses, mais pourquoi pas la radio dans un café, ça me convient bien comme idée aussi.
Bien sûr, c'est des radios-cafés.
Exactement, on va essayer de continuer ce concept. Alors, Olivier Fontaine, dois-je le rappeler, mais vous êtes fondateur et animateur de l'association Écoute ton cœur. Alors, comment se porte l'association aujourd'hui ?
En réalité, l'association n'est toujours pas une association parce qu'on n'a toujours pas de réponse en fait, de la préfecture. Donc, c'est toujours un mouvement pour le moment. Écoute ton cœur, ça se passe bien. Le mouvement continue à avancer. On est toujours présent le plus qu'on peut dans la rue. Même des fois, on fait toujours nos petites rencontres aux Gazettes Café de temps en temps à Montpellier. Et voilà, ça continue à avancer. C'est bien, ça suit son chemin.
Alors aujourd'hui, vous avez souhaité proposer à FM+ une émission sur les éco-villages. Évoquer cette forme d'organisation humaine. Voilà. Qu'est-ce qu'un éco-village ? Olivier Fontaine.
Pour moi, un éco-village, c'est un éco-village démocratique, on va même un peu plus loin que ça. Un éco-village, c'est un endroit, un lieu où plusieurs familles se réunissent sur un lieu où les valeurs fondamentales sont, où on respecte l'être humain, les animaux, la nature, la vie, et où le principe premier de vivre ensemble est l'équité. L'équité qui pour moi est beaucoup plus juste que l'égalité, c'est vraiment le principe de base de ces villages, où il y a un autre principe, c'est qu'une personne égale une voix est égale à un vote. C'est-à-dire une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, est une voix où je vais dire la possibilité de voter, de prendre des décisions dans ce village, parce que pour moi, les enfants sont aussi des personnes et elles ont aussi leur mot à dire. C'est un peu comme le principe des écoles démocratiques, si vous voulez, Guylaine.
Mais tout à fait. Nous avions évoqué l'école pétillante de Montarnaud il y a peu, qui est un modèle d'école démocratique près de Montpellier.
Tout à fait. C'est exactement le même principe. Il y a des conseils toutes les semaines et chacun a une voix. Et tous ensemble, ils décident en fait du cadre dans lequel ce village fonctionne. L'idée des éco-villages, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent être autonomes d'un point de vue énergétique et aussi d'un point de vue nourriture. C'est-à-dire qu'ils arrivent à produire eux-mêmes leur nourriture sur ce village via la permaculture et donc faire quelque chose. Un endroit où presque, je vais dire, il n'y aurait pas besoin de l'extérieur pour pouvoir vivre dans l'amour, dans le cœur, dans le bonheur. Voilà, en fait, c'est un peu l'idée de ces éco-villages.
Vivre en autarcie, alors, sans avoir besoin de quiconque.
C'est l'idée, oui, tout à fait. Vivre en autarcie, parce que je pense que de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, on va se diriger de plus en plus vers ça.
Développement local au niveau d'un village.
Tout à fait.
Alors, quand on dit village, justement, on ne dit pas ville. Est-ce que ça veut dire que le côté urbain, travail urbain, est complètement disparaît de cette organisation ?
Tout à fait, oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'arriver à créer une communauté. S'il y a une notion de communauté dans un village, c'est-à-dire que tous les gens œuvrent pour la même communauté, pour le bien de tous, en réalité. C'est le principe de l'équité, de vivre ensemble pour créer une communauté ensemble. Et oui, il n'y a plus le côté urbain, c'est une communauté, c'est presque comme une grande famille. Donc, ils sont rapprochés les uns des autres. Moi, j'imagine bien que, par exemple, chacun a des talents. Et, par exemple, moi, je ne suis pas du tout bon pour m'occuper. Je n'ai pas la main verte, comme on dit. Mais il y en a d'autres qui auront la main verte, qui pourront faire. J'ai d'autres talents que je pourrais mettre au service. Donc, c'est vivre en communauté, chacun en amenant ses talents et ses compétences dans un système.
Alors, est-ce que c'est forcément dans une petite dimension ?
Je pense que oui. À mon avis, il doit y avoir une vingtaine de familles maximum pour que ça puisse fonctionner. Parce que quand il y a trop de monde, ça devient compliqué à prendre des décisions communes.
C'est donc un mot.
Voilà, un mot. Voilà,
un mot, voilà. Plus exactement.
Il y en a un, d'ailleurs, moi, cette idée m'est venue il y a une dizaine d'années, à côté de l'ODEF, à Vilquin. Ils ont créé le hameau, en fait, ça s'appelait l'éco-village, le hameau de Vilquin. Et il est toujours en cours, il est presque terminé. Je pense qu'il faut quand même du temps pour mettre ça en place. Et c'est vrai que l'idée, au départ, il y a la préparation de ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut trouver 10, 15, 20 familles qui puissent s'entendre et qui aient le même état d'esprit et qui vont dans la même direction. Et ça prend déjà beaucoup de temps de préparation et de mise en place et de choisir les personnes qui veulent aller dans ce genre de, des covillages.
Est-ce que ça veut dire qu'on ne part pas d'un village existant, on en crée un de toutes pièces, ou est-ce qu'un village peut décider, bon, bien, nous allons essayer de vivre en éco-village, dans une sorte de label? Je crois que ça n'existe pas, le label éco-village encore, mais dans cette perspective-là, est-ce qu'on pourrait imaginer un maire d'une commune existante disant, ben, voilà, nous allons tendre, en tout cas, vers ce fonctionnement?
J'ai du mal à croire que ça puisse se faire avec un village existant, mais bon, tout est possible.
Il faut le créer de toute pièce, alors.
À mon avis, il faut le créer de toute pièce, à part d'un endroit, trouver un lieu, de ce lieu, décider quel type d'habitation on va mettre dessus, des habitations écologiques, économiques, des habitations qui vont s'autosuffire énergétiquement. Donc, je pense que c'est vraiment tout un cheminement à partir d'un endroit, d'un lieu. Le premier endroit, c'est le lieu. Alors, il n'y a pas longtemps, on a trouvé un lieu qui était sympathique avec déjà des maisons, enfin des maisons un peu abîmées qui étaient là. Donc, ça peut être de la rénovation. Mais à mon avis, c'est vraiment dans cette direction-là. C'est qu'il faut créer de A à Z pour vraiment faire en sorte d'arriver à l'autarcie, c'est-à-dire même les maisons n'ont pas besoin d'extérieur, même pas de l'électricité. Je vais dire, l'objectif pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit naître de lieu vierge.
Mais ce que j'entends quand même dans ce que vous dites, ce serait un peu exclu du monde. On voit mal des personnes allant travailler au bureau, ou bien peut-être au bureau, revenir. J'ai l'impression que ça s'adresse plutôt à des personnes soit pas actives dans le monde urbain, l'autre monde, tel que vous le décririez là, ou bien des personnes qui ont fait leur activité dans leur vie et qui maintenant ne sont plus rémunérés pour leur profession.
Alors moi, vous voyez, je vais aller même plus loin que ça. Dans ce village, je pense qu'il n'y aurait pas besoin d'argent. Et ça existe à côté de Lyon, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y a un village comme ça qui vit sans argent et qui arrive à être complètement autonome, sans argent et sans travail. J'ai lu dernièrement un livre très, très intéressant qui disait « Libérez-vous de l'argent et de la consommation ». En gros, je pense que c'est réalisable de vivre. Alors, quels sont vraiment les besoins de l'être humain? C'est d'avoir un toit, de se nourrir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de travailler? Si on a de quoi se nourrir, si on a un toit, si on vit ensemble et qu'on peut s'autogérer. Je pense qu'a priori, enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il est possible. Et puis, il y a aussi des solutions pour générer de l'argent sans travailler. Ça existe, hein, c'est possible. On peut faire travailler l'argent pour soi, par exemple. C'est une solution.
On n'a peut-être pas besoin d'argent, mais on a toujours besoin de musique. Vous êtes
d'accord? Voilà, tout à fait. La musique, c'est génial. Et là, on peut mettre des musiciens dans ces éco-villages, tout à fait.
Allez, on fait une courte pause musicale. On vous retrouve tout de suite après, Olivier Fontaine. Olivier Fontaine, merci pour cette pause musicale. Nous évoquons avec vous la notion d'éco-village que nous avons exposée dans la première partie de cette émission. Un éco-village qui serait un système, un village, un hameau, on a même dit, organisé d'une façon démocratique, avec des gens soucieux de l'écologie, de leur environnement, respectueux de leur alimentation et respectueux des uns et des autres. C'est une organisation démocratique. Nous avons aussi terminé la première partie de cette émission en disant que l'argent pourrait être ignoré, disparaître de cette organisation. Mais comment est-ce qu'on fait pour construire un éco-village, arriver à cette organisation presque paradisiaque?
Oui, voilà, c'est vrai, c'est un paradoxe. On pourrait vivre dans un éco-village sans argent, mais il faut bien construire cet éco-village. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'argent. Et donc, moi, je me suis penché sur des solutions, comment on fait pour pouvoir arriver à mettre ça en place, parce qu'il y a quelques années, nous avons voulu participer à un éco-village, et forcément, il y a des gens qui ne pouvaient pas, pour la barrière de l'argent, parce que la première chose, il faut acheter le terrain. Il faut acheter le terrain, on ne va pas nous le donner. Puis il faut construire les maisons, il faut bien acheter les matériaux, etc., pour pouvoir construire ces maisons et tout l'environnement de l'éco-village. Donc il faut énormément d'argent. Donc pour ça, je me suis penché un peu, comment pourrait-on faire ça pour y arriver? Et j'ai étudié les moyens qu'on avait de gagner de l'argent hors travail traditionnel.
Parce que on l'a déjà vu dans une de vos précédentes émissions, le travail, c'est de la souffrance.
Voilà.
On s'arrange, on se débrouille.
Bon, voilà, le
travail, pour vivre heureux sans souffrir socialement.
Voilà, le travail, c'est l'étymologie. L'étymologie du mot travail, c'est outil de torture. Donc, ça pourrait faire souffrir, ça pourrait s'entendre qu'on va souffrir. Donc, trouver d'autres solutions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les riches, ils faisaient travailler leur argent pour eux. Et je me suis dit, tiens, je peux étudier les méthodes, et pas que les riches aussi. Il y a une autre catégorie, les banques, par exemple, font travailler notre argent pour eux.
C'est ça. Eux, ils ne travaillent pas, mais leur argent travaille.
Voilà. Non, ce n'est pas leur argent, c'est notre argent.
En plus, notre argent,
c'est
notre argent
qui travaille pour eux et qui font des gros bénéfices. Et en plus, ils nous font payer pour pouvoir travailler. Donc, on doit payer nos frais bancaires alors qu'ils gagnent des sous avec nos sous. Bon.
Est-ce que c'est logique ? C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet.
Mais quand même important.
Voilà. Donc, je me suis dit, mais comment ils font ? Donc, on a étudié c'est les méthodes des banques. En fait, ils font de la spéculation. Alors, de la spéculation pour de la spéculation, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée. Mais la spéculation pour une bonne cause, par exemple, pour créer un éco-village. Moi, j'ai estimé que pour créer un éco-village complet, il faudrait entre 2 et 3 millions d'euros. Donc, c'est quand même une somme d'argent importante.
Pour une vingtaine de familles.
Pour une vingtaine de familles, une vingtaine de maisons, le terrain, enfin, tous les aménagements. Ce serait quand même un gros budget. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà, si on faisait de la spéculation pour créer des éco-villages et créer un système de financement participatif. Donc, vous savez qu'en plus de l'association Écoute ton cœur, il y a une deuxième association qui existe qui s'appelle le Club OFM, où on est spécialisé justement dans l'économie relationnelle partagée. Et donc, on a étudié des méthodes et des systèmes pour faire travailler notre argent et on a réussi à trouver une solution qui permet de vraiment mettre en place ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire de multiplier les résultats uniquement avec des méthodes qu'utilisent les banques en réalité, mais qui sont accessibles aux gens qui sont prêts à les étudier en fait et plus accessibles qu'on ne pense.
Alors, une fois que vous auriez ces 2 ou 3 millions d'euros, grâce à votre système, à ce moment-là, vous implanteriez un lieu.
D'accord.
En réunissant des gens, c'est bien ça ?
Tout à fait. D'abord, on va réunir des gens, trouver le lieu. La première étape, c'est de réunir des gens qui ont le même état d'esprit et qui ont envie de vivre de cette manière. Parce que quand même, on arrive dans une autre dimension quelque part. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Guylaine, on sort d'un monde pour aller dans un autre... dans un éco-village, on va dire, dans un autre monde différent. Et donc, oui, il faut d'abord c'est réunir un nombre de personnes, des 20 familles, voir si ces 20 familles arrivent à s'entendre et à aller tous dans la même direction. Parce que dans la première expérience que j'ai eue avec un éco-village, on dit d'abord 60 ou 70 familles, et les règles se sont mises en place, et on s'est retrouvé à une vingtaine de familles qui avaient la même idée, la même vision. La vision, c'est ça qui est important, et qui était OK par rapport à cette façon de fonctionner. Ensuite, il a fallu trouver le terrain. Et c'est là qu'il y a eu une deuxième chose, un écrémage qui s'est fait, parce que le terrain, il a fallu l'acheter. Et la moitié des familles, ils n'avaient pas les moyens d'acheter...
La partie, en tout cas, reviendrait le...
Voilà. Il fallait...
Le pourcentage.
C'était un terrain qui avait une certaine valeur. Il a divisé par le nombre de familles. Et là, hop, ça a éliminé encore une partie des familles. Et ça, moi, ça m'a un peu choqué, on va dire, parce que je me suis dit, encore une fois, c'est toujours les mêmes qui bénéficient. C'est ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent faire ce genre de projet. Donc, en gros, l'idée des écovillages, en tout cas de ceux qu'on va faire avec Écoute ton cœur, c'est des écovillages accessibles aux plus défavorisés, donc où l'argent n'aurait même pas d'importance pour l'entrée en fait. Donc l'idée, c'est d'arriver à générer assez d'argent pour que ça s'autofinance grâce à l'économie relationnelle partagée et que les personnes n'aient plus cette barrière de l'argent.
Alors, si vous dites plus défavorisés, en les installant ces personnes-là,
les installants, c'est le bon mot.
C'est le bon mot. Dans un éco-village, ça va accentuer l'exclusion par rapport à la société environnante. Ils n'auront plus d'accès vraiment à une façon... Je comprends bien qu'on n'a pas besoin d'argent dans l'organisation du village, mais du coup, on devient prisonnier, un peu comme...
Il y a aussi la liberté, Guylaine. Ça veut dire que les gens pourront sortir, rentrer dans le village, bien sûr. Ils pourront aller à l'extérieur.
Ce que vous me décrivez me fait beaucoup penser aux Amish, à cette communauté des Amish que l'on trouve notamment aux
États-Unis.
Qui ont cessé d'utiliser la voiture, utilisent le cheval, vivent entre eux dans une communauté forte, religieuse. Là, il y a aussi une dimension spirituelle forte. Et ces personnes-là, elles sont complètement déconnectées du monde environnant.
C'est vrai, j'ai vu dernièrement un film là-dessus d'ailleurs, et je me suis rendu compte, en réalité, ben, moi je vais vous dire personnellement, si je devais choisir un des deux, j'irais chez Léa Mich.
C'est vrai.
Par rapport, sauf le côté, on va dire, il faut enlever le côté, on va dire, religieux. C'est, pour moi, un éco-village, les gens seront libres d'aller à l'extérieur. Maintenant, moi, comme je vois le monde comme il est aujourd'hui,
si ça ne vous tente pas.
Ça ne me tente pas vraiment de voir le monde comme il est aujourd'hui, où je vais dire le monde est basé sur l'égocentrisme, sur l'ego, et que chaque personne est individuelle. Là, c'est le contraire. C'est une communauté où c'est le nous qui est le plus important. Donc, je pense que naturellement, les gens n'iront pas trop à l'extérieur. En tout cas, le type de personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de village, en fait, n'iront pas trop à l'extérieur, parce que qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans un monde... J'ai failli dire un gros mot, excusez-moi. Dans un monde comme celui-là, comme il est aujourd'hui, où c'est le... Où pour moi, c'est...
Déshumanisé.
Oui, voilà, j'ai entendu dernièrement que l'animal le plus féroce sur cette terre, c'était l'être humain. Quand je vois ce qui se passe dans le monde, je me dis, tiens, peut-être que de créer un havre de paix, ça peut être sympa, mais sans côté vraiment...
Mercantile.
Religieux, mercantile, religieux, que ouais. Les gens... Pour moi, le but de la vie, c'est d'être heureux. D'être heureux, être heureux, qu'est-ce que ça veut dire? Être en paix. Je pense qu'aujourd'hui, notre monde n'est pas trop en paix. Hein.
Il y a encore du travail.
Tout à fait.
Bien, mec, je crois qu'on peut s'orienter vers votre association, votre mouvement plus exactement, qui n'est pas encore association mais qui ne saurait l'être, pour peut-être avoir plus de renseignements sur cette, comment dire, cette façon d'envisager la vie. On peut vous retrouver au Gazette Café, vous l'avez dit en préambule de cette émission, tous les mardis.
Plus tous les mardis, c'est tous les premiers mardis du mois.
Tous les premiers mardis du mois. Et puis, en ce qui concerne les éco-villages, on peut aussi se référer à un site internet qui est référent sur ce domaine, qui est Passerelle Éco. À bientôt, Olivier Fontaine.
À bientôt, Hélène, et merci pour ce beau moment.
Merci. Au revoir.